18h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Nous sommes en cuisine et à table jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Ça y est, les cloches sont revenues de Rome, nous aussi. Bienvenue ainsi vous nous rejoignez, toujours avec la cuisinière Sonia Esgulian et notre bistronome Yves Condebordes. On en croque pour le chocolat parce que vous le savez, Pâques, c'est demain. Alors, nous sommes nombreux à attendre que les cloches fassent leur livraison de chocolat. Noir, au lait, praliné, œuf, lapin, poule, il y en a pour tous les goûts. Vous êtes des mordus de chocolat vous-même, ma chère Sonia?
Oui, plutôt noir. Alors moi, je laisse le chocolat au lait aux amateurs et moi, je vais prendre du noir extra noir. Voilà.
Noir extra noir. Extra voilà. Noir. Vous voulez du goût, le côté corsé du cacao. Et vous, mon cher Yves?
Oui, moi, je suis un dingue de chocolat. Je passe pas une journée sans manger un carré de chocolat. On est obligé même de me les cacher. Parce que je les vois, je peux pas prendre.
C'est vrai, tout à l'heure, en arrivant ce matin à Europe 1,
c'est une catastrophe.
On avait de beaux chocolats parce qu'on va en parler dans un instant et...
Si je les vois pas, ça va. Si je les vois, je peux pas me retenir.
Alors, pour parler du chocolat avec nous, nous recevons le torréfacteur de cacao et chocolatier. Je vous le disais, c'est une référence dans le monde de la chocolaterie. Il s'appelle Nicolas Berger. Bonjour Nicolas.
Bonjour Laurent.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Merci d'être là.
Ouais,
vous avez travaillé en tant que pâtissier chez Jean-Paul Evin. Vous êtes associé avec Alain Ducasse pour la manufacture de chocolat, des chocolats Ducasse. Vous étiez vraiment son chocolatier de référence. C'est vous qui avez fait le lancement des chocolats Alain Ducasse. Vous êtes toujours associé d'ailleurs avec Ducasse ou pas?
Non. J'ai démarré la manufacture. Ouais, c'était une super aventure. Et puis j'en suis parti pour monter ma propre entité.
Alors c'est ça, votre propre entité aujourd'hui. Vous avez votre atelier de production de chocolat à vous. Vous l'avez monté en 2021. Vous êtes torréfacteur de cacao. Qu'est-ce que ça veut dire alors?
Torréfacteur de cacao, en fait, on précise de cacao parce que torréfacteur, ça veut on associe ça toujours avec le café. Donc on précise cacao, c'est juste pour dire que, bien sûr, je suis chocolatier, mais je fabrique mon chocolat. Ma matière première, ce sont les fèves de cacao. Donc, je source les fèves et je fabrique du chocolat à partir des fèves de cacao et je distribue après mon chocolat auprès des professionnels.
Bean to bar, comme on dit aujourd'hui, de la fève
bon français,
à la tablette.
Ça.
Voilà, de la fève à la tablette en bon français. Même si pour vous, il n'est pas question de tablette parce que on va parler de pistoles, ces petits morceaux de chocolat ronds et très plats que vous vendez vous-même aux pâtissiers, aux chocolatiers, pour faire de beaux chocolats. C'est ce qu'on appelle le chocolat de couverture.
Voilà, le chocolat de couverture que je transforme donc en pistole pour une question de praticité. Ça permet d'avoir une grande facilité pour peser, pour fondre, pour diviser, enfin pour toutes les... Et même pour incorporer dans une pâte, pour faire des cookies ou autre, c'est une facilité d'usage.
À quelqu'un qui n'aurait jamais goûté de chocolat, vous lui diriez quoi? Par lequel on démarre? Parce que, on va l'entendre avec vous, les goûts et les notes sont différentes en fonction des origines, hein, et puis du taux de cacao aussi mis dans le chocolat.
C'est difficile de dire ça. Enfin, moi, j'essaie d'avoir des goûts relativement bruts. J'essaie d'avoir pas trop de sucre, pas trop de gras. Donc forcément, ça donne le gras, donc le beurre de cacao qui est parfois rajouté, amène un côté un peu doucereux, onctueux, voluptueux au chocolat, mais n'amène pas de goût précisément. Donc moi, j'évite d'en mettre trop de beurre de cacao et je mets le moins de sucre possible. Donc forcément, c'est souvent un petit coup de poing qu'on prend, quoi, avec l'acidité qui peut aussi arriver avec tout ça. Donc je sais pas comment... Enfin, en tout cas, faut prévenir... Je préviens mes clients que ça a une personnalité.
Ça a du goût, exactement. On n'est pas dans le chocolat standardisé et évidemment industriel. Alors là, je viens de goûter un morceau de chocolat à 65% que vous faites, que vous fabriquez.
Oui.
Mais c'est hallucinant, c'est un voyage. Il y a une note d'agrumes, il y a une acidité.
Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit 65%?
Alors 65%, c'est un taux de cacao minimum. La difficulté, c'est de savoir c'est qu'en général, il n'est jamais précisé le taux de fèves de cacao et le taux éventuellement de beurre de cacao rajouté. Donc, ça pourrait être 65%, 60% de fèves et 5% de beurre rajouté, le reste étant du sucre. En l'occurrence, c'est que de la fève. Donc, il y a 65% de fèves et 35% de sucre.
Et c'est ça, et du sucre, et puis il y a du beurre de cacao aussi.
Alors, pour le coup, dans le 65, il n'y a pas de beurre de cacao rajouté. Il y a le beurre de cacao contenu naturellement dans la fève.
Hein,
il y a à peu près 50%, grosso modo, dans une fève de
cacao.
Mais
on ne rajoute pas, là.
Mais là, pour le coup, c'est un petit peu technique. Hein. J'en rajoute pas dans le 65, c'est pour que les professionnels puissent faire des gâteaux, des desserts, des boissons. Et pour cela, on n'a pas besoin du beurre de cacao. Le beurre de cacao amène... au niveau de la dégustation, quelque chose d'un peu confortable. Mais pour faire un gâteau au chocolat, pour faire une ganache, pour faire une boisson chocolatée, pour faire une glace, le beurre de cacao amène que de la dureté, en fait. Hein. Donc la texture sera plus onctueuse, plus ronde, plus moelleuse, si on ne met pas trop de beurre de cacao.
C'est ça qui est fantastique avec le chocolat. Écoutez bien ce vocabulaire, toutes les nuances, tous les goûts, toutes les notes qui se trouvent à l'intérieur d'un petit morceau de chocolat. Là, je reviens au morceau que je viens de goûter, 65%. C'est acidulé, c'est frais, c'est fruité.
Alors, j'ai pris particulièrement quelque chose qui est assez... qui est assez puissant, c'est du Vietnam, et donc effectivement on a beaucoup d'acidité.
Excusez-moi, les trois, c'est le même chocolat de base,
les trois fèves. Ce sont les mêmes fèves,
d'accord,
voilà, qui sont traitées avec 65% de cacao, un 75% dans lequel je rajoute un tout petit peu de beurre, et ça c'est pour faire les tablettes de chocolat, pour avoir un peu plus de fluidité. Et le 100%, alors ça, le 100%, c'est un coup de poing, hein, c'est vraiment que de la fève de cacao.
C'est ça.
C'est très, très puissant.
Et pour les auditeurs qui veulent faire une ganache, vous leur conseillerez...
Le 65%. Oui, c'est bien adapté.
Qu'est-ce qu'on en fait du 100%? Là, je suis en train d'en goûter un morceau.
Le 100%, c'est pour donner un petit coup de peps dans une mousse au chocolat, dans un dessert, dans une boisson chocolatée.
On peut presque aussi l'utiliser en cuisine.
On peut aussi l'utiliser dans le salé.
Dans le bourguignon.
Exactement. Mmh. Oui, absolument. On peut en mettre un peu quand on fait une glace, par exemple... pour donner un coup de peps.
C'est-à-dire qu'on fait une glace de façon classique, crème anglaise, chocolat,
voilà.
Et à la fin, on rajoute le 100% pour marquer plus l'arôme chocolat.
Exactement. Et des fois, dans la glace, par exemple, techniquement, dans la glace, la charpente de la glace, c'est le sucre, hein, pour avoir la bonne texture. Donc, ouais. En mettant le sucre dans la glace, on ne la met pas dans le chocolat, et donc on obtient le bon goût avec la bonne quantité de sucre ajoutée dans la glace. Ça, c'est pour la partie technique.
Mais c'est vrai qu'ici, ce samedi matin, au sud de Coluche, nous avons trois morceaux de chocolat, enfin des petites pistoles, hein, que vous fabriquez pour les pâtissiers et pour les chocolatiers. 65%, 75%, 100%, et il y a une palette aromatique, il y a des différences, mais c'est hallucinant.
Et
c'est
alors là, j'ai amené une seule origine pour qu'on puisse éventuellement
Vietnam,
comparer le côté graduel. Mais bien sûr, chaque origine a des différences vraiment marquées. Quoi.
Les autres origines, alors, à part le Vietnam,
c'est si on continue en Asie, j'ai l'Indonésie. Sur l'Afrique, j'ai Sao Tomé et puis Madagascar. Et après, côté Amérique, dans les Caraïbes, j'ai la République dominicaine et puis Cuba. Et en Amérique du Sud, on a Équateur, Venezuela, Pérou, Colombie.
Et en Europe, on n'a pas un endroit où on cultive des ferrains.
Pourquoi vous dites pas encore?
Avec le réchauffement climatique, peut-être qu'un jour on en aura sur la Côte d'Azur.
Parce qu'il lui faut de la chaleur et de l'humidité, c'est ça?
Oui, hein, c'est ça. C'est dans la zone, c'est sur la ceinture tropicale qu'on trouve le cacao.
Alors l'actualité, Sonia, c'est aussi un prix du cacao qui flambe cette année. On le verra peut-être chez nos chocolatiers, mais c'est vrai que c'est le moment ou jamais hein, pour se faire plaisir ce week-end de Pâques. Donc les prix ont
C'est assez dramatique
monté,
parce qu'en un an, les prix ont pris 162%, vous devez être au courant. Et ce qui porte en fait à plus de 9 000 $ la tonne cette semaine, du jamais vu depuis 1970. Alors je ne sais pas comment les chocolatiers réagissent pour pouvoir réussir à faire des créations en gardant une qualité importante et pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à des créations en chocolat avec ces prix complètement fous.
C'est un vrai problème, exactement. On est confronté à ça, on est au pied de la montagne là. Je pense que 2024 va être dur. Et que 2025 va être très dur. On est vraiment confronté à ce problème-là. Donc, il y a eu une pénurie en Afrique de l'Ouest, Ghana et Côte d'Ivoire, qui a fait exploser les prix. Et aujourd'hui, c'est absolument n'importe quoi. Et comme il y a eu ce problème de pénurie, la spéculation est venue se rajouter par-dessus. Pour bien faire augmenter le prix, on est aux alentours de 10 000 euros la tonne.
Ouais, parce qu'il faut savoir, Laurent, que cette augmentation du prix, elle est pas due à une envie personnelle d'un industriel ou de qui que ce soit. C'est dû aux conditions climatiques.
Bien sûr,
c'est ça. C'est vrai que l'Afrique fournit plus de 70% de la production mondiale de chocolat et les conditions climatiques sont très problématiques. Le dérèglement climatique amène beaucoup de problèmes et c'est à cause de ça que le chocolat est en train de flamber. Ouais.
Vous savez quoi? Pour oublier ces mauvaises nouvelles, je reprends un morceau de chocolat.
Peut-être qu'il faudra être vigilant d'ailleurs sur les chocolats dits industriels. Je ne veux pas leur taper dessus directement, mais comment les gens vont réagir est-ce qu'ils vont mettre d'autres produits pour rééquilibrer des chocolats? Je ne sais pas, mais parce que ça paraît effrayant ce qu'on lit en fait au niveau.
Il est possible qu'il y ait un peu de réajustement parce que quand les fèves de cacao augmentent, ça veut dire que tous les dérivés du cacao vont augmenter. C'est-à-dire que, moi j'achète des fèves principalement, mais la poudre de cacao, le beurre de cacao vont également exploser. Donc effectivement, il y en a qui peuvent être tentés pour mettre un peu moins de beurre et rajouter des matières grasses,
différentes.
Ou mettre moins de chocolat quand ils recouvrent leurs biscuits ou autres. Mais ça, l'avenir dira. Oui.
Mais en attendant, le chocolat, on le sait, et c'est vérifié, c'est prouvé, c'est bon pour le moral. Alors on en déguste, on a plein d'idées de recettes pour vous.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Merci pour votre fidélité, chers auditeurs d'Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec Sonia Esgulian, notre cuisinière lyonnaise, notre bistronome béarnais Yves Candebord et notre torréfacteur de cacao, Nicolas Berger. Vous venez d'où d'ailleurs, Nicolas ?
Moi, je suis lyonnais. Région lyonnaise.
Comme notre je suis une quarantaine dame lyonnaise. Et ben voilà, on se régale, je le dis, avec les chocolats que vous créez, que vous fabriquez pour nos pâtissiers, pour nos chocolatiers dans toute la France. Mais si on veut s'offrir un chocolat Nicolas Berger, on va où? On fait comment?
Ah, c'est une bonne question. On a quand même pas mal de gens qui utilisent nos chocolats. Donc
Louis Simard à Lyon.
À Lyon, ouais. Par exemple.
Brix Pâtisserie à La Rochelle aussi, il me semble. Maxime Frédéric à Paris. William Artigue à Paris aussi. Ouais. Et puis Sculpture, c'est la chocolaterie du Chambard, ça. C'est
en
Alsace, à Kaysersberg.
Il y en a plein d'autres. Hein. C'est difficile d'en citer quelques-uns sans. Et oui. on en oublie trop.
Alors là, on déguste un chocolat au lait.
Le chocolat au lait. Moi, je n'aime pas trop le chocolat au lait, mais alors là, c'est magnifique l'équilibre. Oh, ça sent les fruits
c'est
rouges.
C'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire de
fruits rouges,
pas trop de gras, pas trop de sucre, de la fève. Souvent, dans les chocolats au lait, il y a beaucoup de beurre de cacao, peu de fève et beaucoup de sucre.
Et donc, puis le vôtre, il est très aromatique.
L'idée, c'est de prendre le contre-pied de
la longueur
pas
en bouche,
en fait.
Mais c'est incroyable. Et elle vient d'où cette fève, par exemple, pour celui-ci?
Alors là, c'est Madagascar.
Madagascar.
Ouais, je fais deux origines en lait, Pérou et Madagascar, parce que ce sont deux origines qui gustativement sont très différentes.
On le sait, le travail du chocolat est très pointu, très précis. On parle de tempérage pour le chocolat. Je sais que certains auditeurs qui sont fous de pâtisserie se disent en écoutant Europe 1 samedi matin, tiens, je ferais bien des moulages. On leur dit quoi? Non, aller chez le chocolatier en acheter ou tenter le coup? Mais c'est quoi le truc? S'il y a un truc à savoir pour réussir son moulage, une fois qu'on a acheté les moules.
Le moulage, en fait, ça demande la connaissance. En fait, il faut chauffer son chocolat pour le faire fondre aux alentours de 40-45 degrés.
Ouais.
Il faudrait le refroidir en le mélangeant aux alentours de 28 degrés.
Ah, il faut une sonde, là.
Et le réchauffer aux alentours de 30 degrés pour obtenir bonne qualité, que le chocolat fige rapidement, qu'il se démoule, qu'il soit brillant, qu'il soit croquant, qu'il soit fondant, enfin tout ce qu'on a.
C'est important ce que vous dites, ça permet aussi de comprendre le prix qu'on peut trouver parfois élevé chez nos chocolatiers, mais c'est tout un travail, c'est comme le fromage, quoi. Voilà, ce sont des métiers qui demandent de la
manœuvre. Et même les professionnels, avec tout l'équipement et le savoir-faire qu'ils ont, parfois se trompent. Donc c'est un équilibre, en fait. Ce sont les cristaux de beurre de cacao qui sont polymorphes et qui changent de forme en fonction de la température. Donc c'est très précis, c'est très pointu, et donc il faut bien maîtriser ces températures-là pour avoir la bonne chaîne moléculaire des cristaux de beurre de cacao.
Alors moi j'ai quand même des souvenirs de ma grand-mère qui en faisait, qui le faisait fondre et qui le moulait. Alors c'était peut-être pas parfait, mais ça fonctionnait quand même.
Mais vous avez une grand-mère qui était forte.
C'était pas brillant, c'est vrai que c'était un peu terne. Voilà, mais c'était bon.
Et ben voilà. Dites-moi, Nicolas Berger, votre menu de Pâques pour demain, j'imagine que vous y avez déjà pensé, mais...
Pas du tout.
Pas du tout, mais même pas pour le dessert?
Mais moi, je fais jamais de menu à l'avance, donc je vais me promener, je vois ce que les commerçants ont et ce qui me fait envie.
Non, mais autour du chocolat, vous avez bien idée quand même, en dessert chocolaté. C'est quoi, c'est une mousse,
les
une
enfants m'ont demandé de ramener du chocolat, là, cette semaine. Ah. Donc, je pense qu'il y a des cookies, des gâteaux au chocolat qui se préparent. Si jamais il n'y a rien, je peux faire assez facilement une tarte au chocolat.
Oui. C'est ça, une tarte au chocolat? Ouais. Si vous deviez avoir un dessert, tiens, de référence autour du chocolat, c'est quoi? C'est la tarte? Ouais, la mousse.
Ouais, la mousse au chocolat, ouais, je pense.
L'éclair, vous allez dire, non?
L'éclair, c'est pas mal.
Ah, quand il est bien fait avec une bonne pâte à choux.
Oui.
Voilà, mais frais à la minute, hein.
C'est ça. C'est ça qui fait la différence.
Exactement. Acheter des œufs du commerce et les garnir de praliné, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut faire un praliné à la maison aussi, par exemple.
On peut faire un praliné à la maison. C'est faisable. C'est donc des noisettes ou des amandes caramélisées.
C'est ça.
Grosso modo, c'est 65% d'amandes ou de noisettes et puis 35% de sucre. Habituellement, on peut mettre une pincée de sel aussi. On fait caraméliser, on fait fondre le sucre dans un peu d'eau, on rajoute les fruits secs, on fait caraméliser l'ensemble. Une fois que c'est bien caramélisé, on peut couper un fruit sec en deux pour voir s'il est torréfié, c'est-à-dire que si la chaleur de la caramélisation du sucre a torréfié le fruit sec.
Ah oui.
Si c'est bien, on s'arrête là, on fait bien refroidir Et après, on broie ça dans un robot coupe traditionnel.
Et voilà.
Jusqu'à ce qu'on obtienne cette pâte.
Et c'est magique parce que moi, je l'ai déjà fait pour la télévision. Et c'est vrai qu'on met tout ça dans le robot. Et avec la chaleur de l'hélice et avec la friction, on a cette onctuosité, cette pâte qui se crée en fait. Hein.
Ouais. Et c'est tout ça. Il faut quand même un robot coupe qui soit assez costaud.
Oui, il faut pas un petit truc.
Faut pas
un truc Fisher Price. Oui.
C'est ça. Oui. Et puis, on l'obtient assez facilement.
Et dites-moi, je parlais de Bounty tout à l'heure. On pourrait s'amuser avec les enfants ce week-end à détourner cette confiserie industrielle.
Bah, moi, je le ferais plutôt avec justement un praliné noix de coco. Voyez, plutôt, parce que le Bounty, c'est jamais que du sucre qui agglomère
de la noix de coco
râpée.
Et à quel moment vous mettez de la noix de coco?
Au moment à la fin, quand vous faites votre praliné, justement, juste à la fin, quand c'est cuit, parce que sinon ça brûle assez vite.
Vous la mélangez râpée dedans?
Râpée et légèrement torréfiée également. Et là, on la mélange et ça, donc le mélange se fait bien et on peut étaler ça et faire peut-être éventuellement une idée de Bounty, quoi.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le chocolat? Parce que moi, je vous ai vu travailler plusieurs fois dans vos torréfactions. C'est vrai que c'est bluffant parce que vous êtes très attentif. Vous avez une perception des sens par rapport au cacao qui est incroyable.
Je pense que, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de travailler dans la profondeur, c'est-à-dire aller chercher la matière, trouver être intéressé déjà par les gens qui vivent sur place, trouver le produit, le fruit de leur travail, et puis le sublimer, quoi. C'est-à-dire que simplement, c'est comme un boulanger qui va s'intéresser aux céréales qui vont être transformées après en farine et pour en faire un pain d'exception, hein, avec toute la technicité qu'il peut amener dans le levain et tout ça. C'est pareil pour la chocolaterie. Et on va chercher dans la profondeur, dans les racines vraiment du produit, et puis les étapes suivantes que sont la torréfaction, le broyage et la dernière étape, le conchage, qui vous amène à un produit d'exception.
Alors, on oublie le Bounty, hein, je reviens à mon idée de noix de coco, mais on fait ce praliné, on l'enrobe de chocolat quand même, on le met dans un œuf en chocolat?
Ouais, ce serait, oui, on peut en faire, si on a des petits œufs qu'on peut garnir et recoller ensemble, ce serait pas mal.
Ouais. Eh ben voilà, tiens, pour vous savez pas quoi faire demain comme travaux pratiques,
ce cours de bord. Ah non, mais moi je sais quoi faire, parce que c'est vrai qu'on parle du chocolat.
Vous allez faire quoi en chocolat, tiens?
Moi je vais faire l'apéro en chocolat.
Ah bon?
Oui, parce que les œufs, alors les œufs, je laisse les chocolatiers les faire parce qu'ils les font de façon merveilleuse. Et je m'amuse à faire un truc pour les enfants, ça pète tout le temps. Vous savez, je prends les graisins italiens là.
Oui.
Oui. Et je les prends et je les trempe dans un chocolat fondu, toujours sur 2-3 cm. Je les retourne et ça me fait un petit graisin chocolat avec une belle amertume.
Pas mal.
Et ça sert d'apéritif pour
les
enfants.
Ça change du radis.
Ça change du radis.
Non, mais c'est vrai que l'amertume, elle ouvre l'appétit.
Elle ouvre l'appétit. Et surtout, c'est le moment de Pâques. On est à Pâques et les gamins, ils sont contents parce que voilà, ça croustille. Il y a le côté chocolaté avec la petite amertume. Alors, je prends un chocolat de au moins 75% justement pour qu'on soit un peu sur la mer.
Ouais.
Et les gamins, ils sont contents. Et des fois, pour m'amuser, je rajoute un peu de poudre de piment d'Espelette avec quelques graines de sel.
Tiens, le côté basque.
Et ça fait un petit apéritif pour les enfants, très facile
à faire.
C'est
une bonne idée.
Vous validez, Nicolas Berger?
Je valide.
Bah bravo, il m'épate. Merci, Nicolas Berger, pour votre beau travail et votre présence ce matin au studio Coluche.